Chapitre 29. Ce matin, au motel, Luna n'a pas eu le temps de se raser. Une fine barbe recouvre son menton et ses joues. Il est toujours installé dans le bureau à côté de la salle d'interrogatoire. Le soleil se déplace lentement dans le ciel et des rayons de lumière pénètrent progressivement par la fenêtre poussiéreuse. L'ombre des crayons dans la boîte en plastique Legoland invente des formes sur le bureau. Une douleur vive part de son œil et se fraye un chemin jusqu'à son cerveau. Il y a de nombreuses années, Juna a subi un traumatisme crânien lorsqu'une voiture a explosé près de lui. Depuis, il souffre d'algie vasculaire de la face. Dans le pire des cas, la douleur est si intense qu'il peut perdre connaissance. Il n'a pas eu de rechute depuis longtemps, alors il a cessé de prendre son traitement préventif contre l'épilepsie, le Topimax, qui le fatiguait trop. Mais ces dernières semaines, les alarmes sont devenues plus fréquentes. Juna se lève, baisse les stores et les oriente de façon à améliorer l'image sur l'écran. Mais les lamelles translucides s'y reflètent toujours. La caméra 1 de la salle d'interrogatoire filme la table, une chaise vide et le mur derrière. Saga n'est pas dans l'image, mais il entend le bruit de son crayon gratter les pages de son carnet. Après le déjeuner, une odeur d'huile de sésame flotte dans l'air. Bientôt commence le premier entretien avec Suzanne Yelm, la raison de leur présence ici. Il attend ce moment depuis presque 22 heures et ignore combien de fois ses yeux ont survolé la bibliothèque avec ses classeurs bleus et le bureau où sont posés un téléphone fixe, un ordinateur et une pile de protocoles d'interrogatoire. Sur le tableau d'affichage, à côté de la porte, sont punaisés le menu d'un restaurant thaï, la carte postale d'un collègue en vacances et un bout de papier sur lequel est écrit « Combien de policiers faut-il pour changer une ampoule ?» Aucun, il se contente de casser toute la pièce parce qu'elle est noire. « La voilà !» dit soudain Saga dans le micro. Deux agents pénitentiaires sont allés chercher Suzanne Yelm dans la cour en forme d'éventail du centre de détention. Après avoir discuté de leur stratégie, Saga et Juna ont décidé qu'ils ne consacreraient pas l'interrogatoire à essayer de lui faire avouer le meurtre de Luck. Suzanne sera de toute façon condamnée pour ce meurtre, qu'elle avoue ou non. Leur plan consiste à l'amener à parler de Jurek Walter. Car si Suzanne est impliquée dans les meurtres de Margot, Séverine, Simon et Werner, Jurek Walter constitue une partie inachevée de sa psyché et il est une clé pour comprendre ses actes. Tous deux ont toujours du mal à croire qu'elle est le tueur en série qu'ils poursuivent. Mais peut-être est-elle sa complice. Suzanne considère l'ensemble des institutions comme un ennemi. Elle se sent persécutée par la police et déteste Juna Lina plus que tout. Les inspecteurs amènent Suzanne devant la salle d'interrogatoire. Elle porte les vêtements amples du centre de détention qui lui font des poches aux genoux et les poignets de ses manches sont effilochés. L'officier de service obtient la signature de Saga et fait entrer une femme d'une cinquantaine d'années, au nez camu et à la bouche épaisse, avec de grosses lunettes. Suzanne s'assied lourdement, soupire, et fixe ses mains posées sur la table. Son cou est couvert de tatouages. Ses deux nattes remontent sur ses épaules. Saga se dit qu'elle a un joli visage, qu'il est facile de l'imaginer enfant sur une photo de classe avec ses yeux vifs et son sourire radieux. L'une des plus jolies filles de la classe, avec de bonnes notes et de beaux vêtements. Aujourd'hui, elle a des rides d'amertume autour de la bouche, des poches de fatigue sous ses yeux marron clair et de l'eczéma qui s'écaille à la racine des cheveux. Lorsque Juna l'a arrêtée pour la deuxième fois, elle était assise dans une des petites pièces de la grande maison. Il l'a menottée et l'a photographiée afin de fixer les éclaboussures de sang sur son visage et les écailles de couleur du manche de la hache dans sa paume droite, tandis qu'elle marmonnait qu'elle n'en avait pas fini avec lui. À 35 ans, vous étiez une médecin spécialisée doublement diplômée. Commence Saga. Vous aviez un travail très bien rémunéré. Vous étiez mariée à Michael depuis 15 ans. Ensemble, vous aviez deux filles. Et vous viviez dans une grande et belle villa. Vous n'aviez pas de casier judiciaire, pas de défaut de paiement, pas de contravention, rien. Premier acte, dit-elle sans quitter ses mains des yeux. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième acte? Vous êtes devenue une meurtrière. Vous avez abattu un policier et êtes allée en prison pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, un autre policier est mort. Lucke Larson. Il est décédé presque immédiatement après le coup de hache. Suzanne, intervient l'avocate de la défense en levant une main hésitante. Je veux juste vous rappeler qu'à ce stade, vous n'avez pas à répondre à quoi que ce soit. Vous savez ce que je vous ai dit au téléphone, ce à quoi vous devez penser. Prenez votre temps et racontez-moi ce qui s'est passé avec vos propres mots. Poursuit Saga, imperturbable. J'étais allé chercher la hache dans la remise pour abattre un bouleau mort et Suzanne, l'interrompt l'avocate avec un sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Lui demande-t-elle en lui jetant un regard irrité. On en a parlé, vous n'avez absolument pas à faire de concession. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour que je puisse assurer votre défense, il faut que vous m'écoutiez. De toute façon, je serai condamné à perpétuité, dit-elle en se tournant à nouveau vers Saga. J'ai vu ce policier regarder par la fenêtre de notre ashram pendant l'un de nos rituels les plus intimes. Aucun respect, rien. Il vient là et transforme toute notre spiritualité et tout notre amour en un putain de pipe chaud. « Je comprends, » dit Saga. « Pour moi, ça a été comme si une vitre noire se brisait là, derrière les yeux, dans mon cerveau. » Suzanne admet qu'elle était là, mais pas dans son état normal. La seule chose à laquelle je pensais, c'était qu'il devait mourir. Poursuit Suzanne. « Crève, espèce de connard !» Crève, espèce de sale porc. Et, rétrospectivement, ma seule petite déception, c'est que ce ne soit pas le crâne de Junalina que j'ai fendu. Pourquoi? Il est en train d'écouter. Bien sûr. Juna, dit Suzanne en regardant droit dans la caméra. J'espère que tu vas bientôt crever. Que toi et ta famille, vous allez vivre l'enfer. Pourquoi vous le détestez? Comment une femme peut-elle pardonner à quelqu'un qui lui a pris ses enfants? Vous avez vraiment réfléchi à ce qui s'est passé? Demande Saga calmement. La bouche de Suzanne se plisse. Qu'est-ce que tu crois? Expliquez-moi ce qui a fait que vous avez perdu la garde de vos enfants. Juna est venue chez nous et a tout foutu en l'air. À cette époque, vous travailliez dans le service de psychiatrie médico-légale de l'hôpital Löwenströmska. Comment Saga?
Oui.
L'avocate la regarde d'un air interrogateur. Vous aviez la charge du patient Jurek Walter lorsque vous avez pris un congé. Poursuit Saga.
Oui.
Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous pris un congé?
Parce que je ne me faisais plus confiance, répond Suzanne en baissant les yeux. J'avais changé. Je ne contrôlais plus mes propres pensées.
Comment ça? Elle sourit et secoue la tête. Jurek vous a forcé à raconter des choses que vous ne vouliez pas dire? Il vous a forcé à écouter des choses que vous ne vouliez pas entendre, c'est ça? Demande Saga.
En quelque sorte, oui,
répond-elle à voix basse. Qu'est-ce qu'il vous a raconté?
Toutes sortes de choses. Je ne me souviens pas.
Je sais que vous pensez encore à certaines de ces choses qu'il vous a dites. En fait, je crois que vous y pensez tous les jours, dit Saga calmement.
La respiration de Suzanne devient saccadée et elle semble avoir la nausée. On m'avait prévenu de ne pas écouter ce patient. La plupart des gens utilisaient des bouchons d'oreilles quand ils étaient auprès de lui. Mais je ne sais pas. Je trouvais ça inhumain.
Vous vous trouviez encore dans le premier acte, dit Saga.
Oui. Il me restait encore quelques semaines avant le deuxième.
Qu'est-ce que vous avez entendu?
Des considérations philosophiques et morales. Des choses auxquelles il voulait que je réfléchisse.
Pouvez-vous nous en donner quelques exemples?
Demande prudemment Saga. Comme s'il s'agissait de ses propres souvenirs, Suzanne commence à raconter une soirée d'hiver dans un village dévasté dans les montagnes du Caucase. Il faisait -20 degrés. La neige craquait sous les pas et le froid mordait la peau. Suzanne se tord les mains et fixe le vide devant elle en décrivant d'une voix basse comment Yurek a emmené une mère et son fils simplement vêtus de vêtements de nuit dans la cour à l'extérieur de leur petite maison et les a attachés à une barrière gelée à côté d'un puits.
Ils s'appelaient Lia Lia et Ahmad. Ils avaient tous les deux les yeux bleus clairs.
Yurek a sorti son poignard et l'a lentement enfoncé entre la deuxième et la troisième côte d'Ahmad, à un peu plus de la moitié de la lame, la pointe vers le haut. Le garçon haletait comme un animal blessé. La mère est tombée à genoux, suppliant Yurek de ne pas tuer son fils. Yurek a lâché le manche du poignard et a regardé la base de la lame s'embuer sous l'effet de la chaleur du corps.
Puis, il est parti, les laissant attachés à la barre à côté du puits.
Dit Suzanne en fermant les yeux un instant avant de poursuivre.
Ahmad ne se viderait pas de son sang tant que le couteau serait enfoncé entre ses côtes. Mais il était évident que tous les deux allaient mourir de froid s'ils restaient là. Vous comprenez? Pour pouvoir se détacher et entrer se réchauffer, Lia Lia devait sortir le couteau du corps de son fils.
L'avocate se lève, le visage blême, et quitte la salle d'interrogatoire, sans un mot, au moment où Suzanne énumère les victimes dans les tombes de Lil Youngskogan.
Vous a-t-il menacé directement?
Demande Saga lorsqu'elle s'arrête.
Il m'a raconté l'histoire d'un diplomate russe qui, après sa retraite, comptait retourner en Suède pour réunir toute sa famille afin de fêter son 75e anniversaire, dit Suzanne en levant ses yeux cerclés de rouge.
Yurek a dit qu'il les attendrait et qu'il les attraperait tous, adultes, vieillards, enfants, pour les enfermer dans un bunker. Puis il les enterrerait vivants l'un après l'autre, jusqu'à ce que le diplomate soit seul au monde.
Suzanne déglutit et se met ensuite à parler d'une femme dans un cercueil. Mais elle s'arrête au bout de quelques phrases, réalisant que son avocate n'est plus là.
Vous avez fait 8 ans de prison et vous avez été libéré il y a 3 ans. Qu'avez-vous fait une fois libre?
Quels étaient vos projets pour le troisième acte, à part le meurtre de votre ex-mari et l'enlèvement de vos enfants?
Suzanne baisse à nouveau les yeux.
Mon avocate pense que je dois faire attention à ce que je dis.